Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Et si à la rentrée, vous vous lanciez dans des études de théologie, loin d'être réservées aux séminaristes, aux prêtres ou aux religieux, la théologie attire aujourd'hui de plus en plus de laïcs, souhaitant trouver des réponses à leur soif spirituelle et intellectuelle, un désir qu'il faut entendre et auquel il faut répondre. La théologie pour tous, c'est le sujet de Vivante Église aujourd'hui. Autour de ce plateau, frère Henri Donneau, doyen de la faculté de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour frère Henri.
Bonjour.
À vos côtés, le père, en face de vous, le père Charles Rochat, directeur du deuxième cycle qu'on appelle la licence canonique, toujours à l'ICT. Bonjour.
Bonjour.
Également en plateau, deux élèves en fin de première année de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, Eugénie Bollénois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication à la Fondation Jérôme Lejeune, donc c'est là qu'on voit qu'il y a des laïcs qui suivent cette formation de théologie. Et Gaspard Dume, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de guitare classique au Conservatoire de Blagnac. Alors, je précise, puisque frère Henri me l'a dit avant cette émission, que ces études de théologie peuvent être suivies ailleurs qu'à l'Institut catholique de Toulouse. Et c'est vrai que dans notre région qui est grande, il y a d'autres possibilités. Mais nous avons la chance d'avoir cet Institut catholique à Toulouse. Et donc, nous profitons de votre présence. Nous allons commencer avec vous, Gaspard Dume. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre des études de théologie?
Alors... Je suis converti adulte, baptisé depuis 5 ans, et je fais partie de cette génération de nouveaux baptisés. Et c'est vrai que après les grands émois des premières années, il a fallu d'une certaine manière un peu rattraper avec l'intelligence ce que le cœur avait déjà saisi, ou en tout cas éprouvé. Et j'ai commencé à travailler un peu tout seul dans mon coin, et très vite je me suis rendu compte que c'était pas suffisant et qu'il y avait quelque chose d'un peu injuste à rester tout seul avec une aussi grande soif. Et donc, j'ai essayé de me rapprocher d'un institut qui pourrait m'aider à avancer dans une plus grande intelligence de la foi, pour une meilleure unification aussi de ma personne, et puis en vue, peut-être, de servir un peu l'Église plus tard.
Mmh. Pourquoi vous dites que c'est injuste? C'est dans le sens de quelque chose qui n'est pas ajusté?
Alors, il y a peut-être plusieurs dimensions. La première dimension, c'est que quand on est seul, il me semble que les sources que nous pouvons trouver sont tellement diverses qu'on a du mal à s'y retrouver, en fait.
Ah oui.
Et c'est vrai que en cherchant beaucoup sur Internet, mais en prenant aussi un livre par-ci, par-là, on a du mal à avoir une unité, une vision globale.
Une cohérence.
Une cohérence dans nos recherches. Et peut-être que je perdais pas mal de temps et beaucoup d'efforts qui étaient peu ajustés. Donc. Et puis il y a une autre dimension, c'est aussi le fait que, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je découvre à Toulouse, c'est que la théologie ne se vit pas seule, ne se fait pas seule, et qu'il y a beaucoup à apprendre déjà de nos aînés, et de nos professeurs en l'occurrence, et également dans les dialogues qui suivent les cours, et qui nous permettent d'avoir vraiment de nous remettre en cause, et d'avancer ensemble dans une meilleure connaissance de Dieu. Donc il y a la dimension communautaire qui me semble très importante.
Mmh. Pour vous, Père Charles Rochat, qui est professeur, cette dimension communautaire, comment vous la vivez en tant que professeur?
Alors, moi, quand je pense à la vie communautaire à la faculté de théologie, je pense d'abord à la vie fraternelle entre les professeurs.
Ah oui.
C'est l'un des aspects qui m'a le plus marqué, parce que moi je suis un tout nouveau, hein, je suis arrivé en septembre dernier.
Vous arrivez de Lyon.
Voilà. Et j'étais marqué par la fraternité, l'amitié, la bonne estime entre les enseignants. Donc on n'est pas tous fait pareil, on pense pas tous la même chose, même si on est quand même tous catholiques et qu'on est.
Vous avez un socle commun.
Oui, quand même. Mais il y a une vraie diversité une vraie estime mutuelle, une vraie fraternité. Oui, on sent une communion dans la prière et dans la réflexion théologique. Donc ça, c'est très très fort. En tout cas, pour moi, jeune enseignant, c'est très fort. Oui.
Oui, c'est ça. Et avec les étudiants?
Et du coup, je pense que, enfin, il faut leur demander, mais je pense que ça impacte quand même aussi, hein, dans le fait que je pense qu'ils voient bien que les professeurs sont très unis, et qu'il y a un vrai amour de la théologie, un amour de l'Église, une volonté de servir humblement le plus possible l'Église. Et donc ça se transmet, je pense, dans la manière d'enseigner, dans ce qu'on essaie de donner de meilleur aux étudiants.
Mmh. Oui. Frère Henri Deneau, dans les avec les étudiants que vous croisez, est-ce que ça, dans quelle mesure ça vous fait avancer aussi, peut-être dans la compréhension? Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir quand vous êtes bousculé par des étudiants?
S'il y a de la théologie, c'est que par définition, l'Église sait qu'elle aura toujours à découvrir de nouveau. Toujours, jusqu'au retour du Christ, elle devra toujours grandir. Et on, comme l'a dit Gaspard, comme l'a dit le Père Charles, on ne grandit pas tout seul dans sa foi avec une relation directe avec Dieu. On grandit au cœur de l'Église. Et en matière théologique, on grandit beaucoup par le débat, les questions, les objections. Alors, l'enseignant n'aime rien tant que d'avoir des étudiants qui posent des questions, si possible des questions un peu dérangeantes, des questions qui bousculent, qui ne sont pas, dont la réponse n'est pas évidente. Et ça aide les professeurs à avancer, et j'espère que ça aide aussi les étudiants à découvrir cette dimension communautaire d'une recherche de la vérité. Moi, j'aime beaucoup la devise que Saint Albert a donnée aux théologiens, chercher la vérité dans la douceur de la vie fraternelle.
Ah, c'est magnifique.
Oui, on cherche,
ça reflète bien.
On est les frères ou sœurs et on cherche ensemble la vérité. Voilà. C'est une manière, à mon avis, très profonde de concevoir le rôle de la théologie dans l'Église et la manière de la pratiquer.
Oui, c'est ça. Eugénie Bonnet-Lenoir, pourquoi vous êtes-vous inscrite à l'Institut catholique de Toulouse pour commencer une licence en théologie?
Alors, il y a deux points. Le premier, c'est une appétence très vive pour l'intelligence de la foi. Que je portais depuis plusieurs années. En fait, j'ai vécu, il y a une petite dizaine d'années, une conversion importante avec un engagement fort dans une vie de prière. Et j'ai pas tout de suite saisi en fait, l'intérêt de me former intellectuellement. Ça n'a pas été immédiat, mais ça s'est vraiment imposé à moi comme une nécessité au fil des années. Voilà. Avec notamment, il y a une phrase de saint Thomas qui m'a beaucoup marquée il y a quelques années, 2 ans je crois. C'est comme la grâce ne détruit pas la nature mais la perfectionne, c'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi. Alors cette phrase, je l'ai un peu reçue comme une gifle, parce que je me suis dit, en fait, ma raison naturelle ne sert pas du tout ma foi, je l'ai mis au placard. Et du coup, ça a été une petite conversion pour moi, de me dire vraiment j'ai le droit et même le devoir, en fait, de que mon intelligence serve ma foi, voilà, tout simplement. Et je crois que c'est pas forcément une évidence. Il peut y avoir, à mon avis, peut-être dans certains milieux d'église, une forme de méfiance vis-à-vis des choses de l'intelligence. Comme si, peut-être, si on est trop intellectuel ou on réfléchit trop, ça peut nuire un petit peu à notre vie spirituelle. Donc, en tous les cas, saint Thomas m'a vraiment aidé à me débarrasser de ça. Et puis, donc voilà, ça, c'était le premier point. Et après, pourquoi je suis venue ici à l'Institut catholique de Toulouse? C'est une série de circonstances que j'ai perçues comme providentielles voilà, l'année dernière, avec notamment certaines personnes qui m'ont dit explicitement et vigoureusement « tu devrais vraiment te former en théologie voilà. ». Donc je n'y avais pas pensé de moi-même à m'inscrire dans une faculté, mais du coup après ça a fait son chemin. Et puis, pourquoi je suis arrivée ici à Toulouse? Moi, je ne suis pas du tout originaire de cette région. Et là encore, une rencontre assez providentielle l'été dernier avec une religieuse dominicaine que j'ai rencontrée dans une abbaye en Normandie. Et je lui ai parlé un petit peu de mes projets de formation. En fait, au début, j'avais pensé... Je travaillais à Paris en CDI et je pensais me former en théologie en parallèle de mon travail. Donc, à distance, et puis c'est elle qui m'a dit surtout ne faites pas ça, venez à Toulouse, c'est la meilleure fac de théologie en France. Et donc je suis arrivée ici, voilà.
Cocorico pour la meilleure fac de théologie en France. Je vois frère Henri qui prend quelques distances. Je voudrais qu'on parle de ce terme que vous avez utilisé l'un et l'autre, Gaspard et Eugénie. Vous avez parlé de l'intelligence de la foi. Et est-ce que l'un ou l'autre, Père Rocha ou frère Henri, vous pourriez expliquer de quoi il s'agit?
La théologie, elle part du fait que la foi qui nous réunit, qui est une, elle est l'adhésion à la parole de Dieu. On croit à la parole de Dieu, on croit que Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité, qu'il est mort pour nous. Mais une fois qu'on a posé ça, notre intelligence cherche toujours à mieux entrer à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu agit comme ça? Qu'est-ce qu'il nous veut? Et donc la foi, par définition, pose des questions. Si c'est une foi vivante, si c'est une foi morte, routinière, très bien, la foi du charbonnier, on ne se pose pas de questions, on va au ciel ou on n'y va pas. Bon. Mais l'intelligence, comme a dit Eugénie, et notre raison est faite pour travailler. Mmh. Et donc, le croyant, lorsqu'il a vraiment... Alors, surtout alors, quand sa volonté, sa vie spirituelle est forte, et Gaspard a très bien dit qu'il faut... l'intelligence, elle ne fonctionne pas seule. Elle va avec aussi...
avec le cœur.
Le cœur, et on va d'abord à Jésus par son cœur. Mais de fait, l'intelligence, elle a ses exigences aussi. Plus le cœur avance et aime Jésus, plus l'intelligence, elle veut aussi s'ajuster et comprendre. Et donc voilà cette démarche qui est inhérente à une foi vivante. Et normalement, tout chrétien devrait à sa manière faire de la théologie, au moins d'aller poser des questions ou se cultiver, comme a dit Gaspard, sur des livres, et puis après, eh ben, participer à des groupes. Enfin, c'est un devoir d'hygiène spirituelle, à mon avis, que de grandir dans ce désir d'intelligence.
Il y a un passage de l'Évangile qui m'y fait penser justement à ce titre, hein, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Quand, donc, le soir de la résurrection, Jésus les rejoint. Ils sont déçus, dépités, et donc ils ne savent pas grand-chose, et puis ils font même un peu la leçon à Jésus en disant « mais tu es bien le seul à ne pas savoir tout ce qui s'est passé ». Et Jésus, quand il prend la parole pour les catéchiser, commence par dire, une des traductions en français dit un « haut cœur sans intelligence ». Pour moi, il est l'une des plus grandes critiques de Jésus, ça ne doit pas être très, très facile d'entendre ça, hein, mais il leur dit « en fait, vous avez aimé comme des idiots ». Voilà, donc au cœur sans intelligence, donc l'idée, hein, c'est d'aimer avec son cœur et de réfléchir avec tout son cœur et puis d'aimer avec intelligence. Voilà. Donc c'est un beau projet, à ce titre.
Oui, oui. Dans les étudiants que vous voyez, qu'est-ce que vous constatez comme recherche? Pourquoi ils viennent finalement étudier la théologie?
Le Gaspard nous l'a dit, Eugénie,
oui,
je crois qu'il y a
mais,
vraiment...
Mais dans les autres, est-ce que
on
vous
comprend
constatez
que lorsqu'on
une...
est, lorsqu'on est chrétien socle. Aujourd'hui, surtout dans le monde d'aujourd'hui, il faut être capable de rendre raison de sa foi, comme d'ailleurs Saint-Pierre dans son épître le demande, il faut rendre raison de ce que l'on croit, de son espérance, mais enfin c'est de sa foi, pourquoi on est comme ça, pour pouvoir témoigner auprès des autres. Et l'itinéraire Gaspard peut-être est emblématique des jeunes convertis qui découvrent Jésus au cours de leur vie. On les désire après de pouvoir expliquer ce qui s'est passé et d'aider les autres aussi à grandir. Ils me parlent d'un service d'église. Enfin, la théologie, c'est un service qu'on se rend tous, hein, à grandir dans l'intelligence pour mieux répondre à toutes les questions innombrables, les défis qui se posent aujourd'hui à l'église.
Mmh. Eugénie parlait de cette distorsion entre le cœur et l'intelligence. Est-ce que vous, Gaspard, vous êtes posé cette question?
Oh que oui.
Oh que oui.
Et c'est justement... Le cours du frère Henri Donneau qui m'a aidé un peu à être plus apaisé par rapport à ça, puisque il y avait une tendance plutôt anti-intellectuelle de ma part. En théologie fondamentale, on a essayé de voir un peu plus l'articulation entre la volonté et l'intelligence, et de voir que cette articulation n'était aucunement au détriment du cœur, sur lequel je misais tout, mais au contraire, comme nous l'avons déjà dit, cette intelligence permettait d'une certaine manière aussi d'apaiser le cœur. Et moi, l'exercice de la théologie, c'est un peu égoïste, mais peut-être que ça commence aussi par là, c'est aussi un exercice de pacification intérieure, d'apaisement, puisque le cœur, aussi brûlant soit-il, d'une certaine manière, s'il est dans le brouillard et que la lumière de l'intelligence ne peut pas éclairer sa vie intérieure, il y a quelque chose qui n'est pas très fertile et pour la vie personnelle et pour la relation à Dieu, et puis comme le frère Henri Donneau l'a dit, pour le service du prochain.
Mmh. Voilà. Oui. Le cardinal Ratzinger, donc, avant d'être pape Benoît XVI, a donné cette triple définition de la théologie. Il disait « elle s'occupe de Dieu, elle est aussi une manière philosophique de chercher, et enfin la théologie est une science spirituelle, en ce sens qu'elle ne peut être étudiée de manière purement académique, mais doit être comprise en même temps comme exigence de vie ». Est-ce que vous, Eugénie et Gaspard, vous étiez conscients de la richesse d'un tel enseignement ?
Oui, c'est-à-dire de la théologie, la richesse
oui,
de la théologie.
Oui, oui, oui.
Je pense que, alors, pour ma part, j'en étais conscient, mais pas à ce point-là. Parce que plus on s'y plonge, plus on a envie de s'y plonger, et plus on se rend compte que l'eau est profonde et savoureuse. Donc, oui, une grande richesse, d'autant plus que c'est vrai qu'il y a une dimension de combat aussi un peu dans la théologie. Il y a des figures de la théologie que je n'avais pas envie de rencontrer, qui me faisaient peur.
Lesquelles, hein?
Par exemple, saint Thomas d'Aquin.
Le maître.
Et oui, tout à fait. Et en fait, il y a des petites appréhensions, des petits a priori à dépasser pour en fait être surpris au-delà de toute attente. Et Dieu parle à travers ses saints, et nombre de saints sont théologiens, même tous les saints sont d'une certaine manière théologiens. Et je crois que cette sainteté, on n'a jamais fini de la découvrir, quoi.
Eugénie, vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, je me tourne vers vous, Père Charles Rochat, puisque ça fait deux fois qu'on parle de saint Thomas d'Aquin, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'il a particulièrement apporté à la théologie.
C'est une question qui n'est pas facile. Il y a plusieurs portes d'entrée. Hein. Moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est que on a souvent réduit un peu à tort saint Thomas d'Aquin à l'auteur de la Somme. De la Somme de théologie, parce qu'effectivement, c'est un ouvrage majeur, et puis en fin de vie, dans un ouvrage de maturité. Mais en fait, avant d'être le rédacteur de la Somme, saint Thomas est un grand commentateur de l'Écriture sainte, un amoureux de l'Écriture sainte. Il avait lu aussi une espèce de bouche d'or, quoi. Hein. Il parlait avec l'Écriture, il pensait avec l'Écriture, il respirait l'Écriture sainte. Il la mangeait, il la méditait, il la contemplait. Et c'est ce qui fait, je pense, l'un des trésors, en plus de son intelligence supérieure. Hein, mais la profondeur de saint Thomas, elle réside dans le fait qu'il a contemplé le Christ dans sa parole. Vous connaissez la phrase célèbre de saint Jérôme, hein, qui méconnaît l'Écriture, méconnaît le Christ. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué, en tout cas dans mes études, dans ma découverte de saint Thomas. C'est vraiment son amour de l'Écriture sainte et qui ensuite a irrigué toute sa pensée. C'était un homme qui priait. Il avait une intense vie de prière. C'est un maître spirituel, hein, saint Thomas, avant d'être un rédacteur d'ouvrages. Il a mis la théologie en musique dans sa propre vie, par sa sainteté de vie personnelle. Et donc, pour moi, c'est assez fort de voir l'importance de l'Écriture, le primat de l'Écriture dans toute sa réflexion. Ça rejoint mon histoire personnelle. Hein. J'ai pas eu l'honneur de faire mes études de théologie au début à Toulouse. J'ai commencé à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles. Donc c'est une université de jésuites qui nous ont beaucoup éveillés à ce primat de l'Écriture sainte. Voilà. Le Vatican II a beaucoup rappelé ça, hein, que l'étude de l'Écriture doit être comme l'âme de la théologie. Et par la suite, quand j'ai plus travaillé saint Thomas, j'ai découvert qu'effectivement on avait un grand maître spirituel et théologique, notamment à cause de cela.
Mmh. Oui. Une question avant que nous fassions une pause musicale. Frère Henri Donneau, on a bien compris qu'il y avait, cette intelligence du cœur et en fait il fallait, la théologie nourrissait l'intelligence, et comme Gaspard lui disait, il y avait cette, et Eugénie aussi, il y avait cette soif de Dieu et cette, on va dire, le travail du cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec la théologie, le fait d'étudier, finalement de rester à un niveau cérébral?
Bah, exactement comme Gaspard évoquait le risque d'une vie mystique sans intelligence qui reste dans le brouillard, il y a le risque absolument inverse qui a été malheureusement, ou peut-être chez moi ou chez d'autres d'ailleurs, qui est toujours récurrent, c'est de s'enfermer dans la dimension purement spéculative, qui est une espèce de plaisir personnel qu'on a à spéculer en se coupant de la vie concrète avec Jésus, de l'amitié avec Jésus, la vie spirituelle, de ses obscurités, en même temps de son ardeur. Oui, il y a un risque, une espèce qu'on appellerait l'intellectualisme outrancier, l'hyperspéculation. Un des risques qui a longtemps malheureusement un peu porté une ombre mauvaise sur la théologie, c'était l'oubli de l'Écriture, justement. La théologie s'est coupée de l'étude de l'Écriture sainte. Elle s'occupait uniquement de raisonnements métaphysiques et spéculatifs, en se coupant de l'Écriture. Bon, grâce à Dieu, depuis le XXe siècle, on est vraiment revenu à ce désir profond d'unification de l'étude de l'Écriture, pour pouvoir ancrer concrètement la spéculation dans la vie avec le Christ, qui nous est d'abord donné du point de vue de l'esprit par l'Écriture. Donc il faut effectivement sans cesse lutter contre ce risque. Mais je crois que le point vraiment important de la théologie, c'est d'éviter justement toujours que la vie spirituelle s'enferme dans une espèce de fondamentalisme où on répète toujours les mêmes choses sans progresser, ou inversement, aussi le risque d'idéologie. La théologie est un antidote contre les idéologies, parce que sans cesse, on est ramené à l'Écriture, on est ramené aux sources, on est ramené au magistère, on est ramené au docteur de l'Église qui évite de tomber dans des travers idéologiques qui, sans ça, guettent aussi la vie chrétienne dans l'Église.
Oui, 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 bien sûr. Alors, je vous propose que nous nous arrêtions quelques instants. Eugénie Boulenois, Gaspard Dume, frère Henri Donneau et père Charles Rochat. Nous écoutons « Écoute, Dieu, ton Dieu t'appelle » interprété par le chœur dans la ville.
Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas. La route de ta joie, il est...
Église, Isabelle Duché.
De retour dans votre émission Vivante Église, nous voyons à quel point la théologie est pour tous, laïque comme religieux, et pour en témoigner, Eugénie Boulenois et Gaspard Dume, étudiants en première année, sont en plateau. Frère Henri Donneau, doyen de la faculté de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, et Père Charles Rochat, directeur de la licence canonique à l'Institut catholique toujours de Toulouse. Pardon. La licence de théologie est composée de 4 domaines de spécialisation, la théologie fondamentale et dogmatique, j'aurais dû dire en premier, pardon, l'exégèse et la théologie biblique. Deuxième, la théologie fondamentale et dogmatique. L'histoire et la patristique. Et enfin, la théologie spirituelle et morale. On va prendre ce premier domaine, l'exégèse et la théologie biblique. Qu'est-ce qu'on y apprend très précisément, Père Charles Rochat?
On se met à l'école du Christ qui nous parle. Parce que pour nous, comme vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion du Verbe de Dieu, la parole de Dieu qui s'est faite chair en Jésus-Christ. Et donc, c'est se mettre à l'écoute de cette parole dans l'Écriture sainte et dans la tradition de l'Église. Pour nous, un catholique, la parole de Dieu, ce n'est pas, et le Concile Vatican II l'a beaucoup rappelé, dans la constitution Dei Verbum, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement l'Écriture sainte, c'est et l'Écriture et la tradition de l'Église, donc tout ce que l'Église, les papes, le magistère de l'Église, les saints ont enseigné. Et donc, puisque l'écriture, comme je disais tout à l'heure, commence par la contemplation de la parole de Dieu dans l'écriture et la tradition, d'abord dans l'écriture sainte, c'est se mettre à l'école du Christ qui nous parle dans les saintes écritures. Voilà, donc il y a des enseignements pour nous expliquer comment elle a été écrite, d'où elle vient, son authenticité, les différents livres, la manière dont l'Église a discerné quels sont les livres à retenir et ceux qui ne sont pas à retenir, la question de des canons des écritures, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, les légendes littéraires, il y a beaucoup de choses à découvrir, des outils aussi qui peuvent nous permettre de mieux comprendre. Mais encore une fois, l'idée au-delà de tout ça, c'est vraiment d'écouter Dieu qui nous parle. Voilà.
Mmh. Eugénie et Gaspard, qu'est-ce que cette étude de l'exégèse et de la théologie biblique vous a appris? Qu'est-ce que vous avez découvert à travers cet enseignement, Eugénie?
Alors, donc moi, je termine ma première année du baccalauréat. Et en première année, nous avons deux enseignements différents sur la Bible. Le premier sur les synoptiques et le deuxième sur le Pentateuque et les livres historiques, les premiers livres de la Bible. Et une des grandes richesses de l'enseignement à la faculté de théologie, c'est qu'on a l'occasion en fait de faire des petits écrits. Alors c'est assez sobre, hein, c'est 5 à 10 pages. Et du coup, ça permet d'approfondir un petit peu un sujet. Et moi, je l'ai fait donc, notamment en Bible cette année. Et ça a vraiment été une des choses qui m'a le plus nourrie. J'ai fait donc un petit travail de 10 pages sur le chapitre 19 du premier livre des Rois avec Élie. Sur la montagne de l'Horeb, voilà. Et ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de joie. Ça m'a aidé à mieux comprendre la figure d'Élie, voilà. Notamment le parallèle entre Élie et Moïse, aussi, oui. Voir aussi comment Élie pouvait être une image du Christ, en fait. Voilà. Oui. Voilà, tout simplement. Mais c'est vraiment beaucoup de joie et beaucoup... Je pense que c'est ça qui m'a le plus nourri, peut-être intérieurement, aujourd'hui, dans la prière, mm-hmm. Voilà, pour cette année.
Gaspard?
Alors nous avons pu voir dans un cours également sur l'exégèse, d'une manière générale, les différentes approches qu'ont pu avoir nos aînés dans l'approche de l'écriture. Donc, par exemple, comment les Juifs, à certaines époques, comment est-ce que la Bible elle-même contient de l'exégèse? Comment est-ce que certains livres de la Bible sont des relectures de livres plus anciens ou d'événements passés? Également, comment le Talmud, un tout petit peu, peut essayer de goûter, de comprendre, d'approfondir l'écriture, mais également les pères de l'Église, puis la scolastique, etc. De voir toutes ces approches, j'ai trouvé ça très enrichissant, parce que bien évidemment, il y a des approches qui nous semblent très étonnantes, comme celle de la Kabbale, par exemple, mais finalement, toutes sont assez enrichissantes et nous permettent d'aller un peu plus loin dans notre manière d'appréhender cette parole. Mmh. Et insistance a été faite sur l'histoire du XXe siècle avec l'exégèse historico-critique, mais on nous montre bien qu'aujourd'hui on passe à une autre lecture qui n'est pas donc, simplement diachronique, c'est-à-dire qui cherche à discerner toutes les strates d'écriture, toutes les strates présente dans les textes, mais une écriture plus synchronique, donc qui cherche à retrouver un sens, le sens de la rédaction finale. Et donc, comme aujourd'hui, au début du XXIe siècle, on revient d'une certaine manière à une lecture peut-être plus spirituelle, tout en utilisant ces techniques de l'approche historico-critique. Donc voilà, on a pu brosser en un an ces différentes approches, ces différentes manières de regarder l'écriture, et cela a été très enrichissant.
Très enrichissant. Le deuxième pilier de la formation en théologie, c'est la théologie fondamentale et dogmatique. Qu'est-ce qu'elle contient précisément, frère Henri?
Alors, on dira, c'est ici qu'on essaie d'étudier de manière un peu plus spéculative le cœur de la foi, hein, le dogme, c'était les grands mystères de la foi concernant d'abord Dieu, son unité, tout le mystère de l'unité divine et sa trinité, et les personnes, les relations. Et donc ça, c'est vraiment des parties très centrales, le mystère de la trinité qui fait peur un peu à tous les chrétiens, et on ne rentre jamais sans trembler dans ces grands mystères. Et puis, le grand mystère de l'incarnation rédemptrice. Le mystère du Christ, pourquoi l'incarnation, pourquoi la rédemption, et ensuite le Saint-Esprit aussi, et puis le mystère de l'Église, corps du Christ, peuple de Dieu, les sacrements. Oui, enfin, c'est tout le grand contenu de la foi qui est étudié spéculativement. Et alors, la théologie fondamentale est un peu à l'orée de tout ça, elle pose un peu les fondements. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Pourquoi Dieu parle? Avant d'étudier ce qu'il dit, on réfléchit comment il a parlé dans l'histoire. Il a parlé par les prophètes, par l'Écriture, il parle par son Église, par le Christ, par les apôtres. Donc on essaie de mettre en place les grands aspects de la parole de Dieu. Et puis aussi on étudie un peu qu'est-ce que c'est que faire de la théologie. Oui, c'est les fondements. Bon, on peut dire un peu c'est le cœur de la foi, mais qui présuppose toujours vraiment la partie biblique qu'on vient d'évoquer. Mm-hmm. C'est une fois qu'on est capable de bien se plonger dans l'Écriture, on sent la nécessité d'un regard plus spéculatif, capable de distinguer les problèmes. Parce que dans l'Écriture, tout est présent, mais de manière très dispersée, un peu confuse. Bonaventure dit que c'est une forêt opaque, l'écriture, donc il faut y entrer, mais la théologie dogmatique permet de donner des grands axes pour entrer et mettre des mots, des concepts précis pour dire le mystère de Dieu, le mystère du Christ. Voilà. Donc il y a une articulation profonde entre le dogmatique et puis l'étude de l'écriture dont on vient de parler.
Mmh. Question un peu béotienne, mais justement, vous avez parlé, frère Henri Deneau, de mystère et qu'il est difficile, enfin qu'on les approche, mais qu'il est difficile de les... Enfin qu'on ne peut pas... maîtriser ou contenir. Est-ce qu'il n'y a pas une part de frustration face à ces mystères?
La crainte et tremblement, on fait pas de théologie sans crainte et tremblement, parce qu'on sait qu'on utilise des concepts qui sont toujours inadaptés. On apprend ça en théologie fondamentale. Les concepts que l'on utilise, qui sont issus de notre expérience humaine, sont tous inadaptés et incapables de nous dire en vérité. Simplement, ils nous permettent de nous approcher. Donc, oui, il ne faut pas les prendre pour des idoles. Mais sans eux, on ne va nulle part. Donc on a besoin de tous ces concepts, de tous ces dogmes. Mais en même temps, on sait très bien qu'ils sont toujours limités par certains aspects et qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin, de les articuler entre eux. Mais évidemment, c'est fondamental dans la théologie. On n'enferme pas le mystère de Dieu.
Oui, c'est ça.
On essaye, avec crainte et tremblement, d'entrer un petit peu dedans pour apercevoir quelque chose. Mais comme dit saint Thomas, tout ce qu'on peut en dire, c'est de la paille qui va brûler par rapport à la vérité de ce que nous cherchons et ce que nous attendons et espérons.
Oui, bien sûr, et que nous verrons dans la vie éternelle.
Et c'est aussi le côté passionnant de la théologie. À l'inverse aussi, c'est que c'est un puits sans fond. Et donc il y a quand même, il y a toujours quelque chose à découvrir. On a quand même tous fait l'expérience de lire des textes de l'Écriture sainte, par exemple, qu'on a entendu 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Des homélies aussi plus ou moins heureuses sur ces mêmes textes. Mais on a tous fait l'expérience de découvrir un nouveau visage d'une page de l'Évangile ou d'un autre texte de l'Écriture sainte. Et c'est pareil aussi en théologie. Je pense que personne ne peut dire « Bon, moi, je crois que j'ai fait le tour du mystère de la Trinité, je vais passer à autre chose. » Donc il y a quand même quelque chose aussi de passionnant là-dedans, c'est que c'est quand même un livre qui est toujours ouvert.
Oui, c'est ça.
Et plus on reçoit, plus on a envie de recevoir.
Ah oui, c'est ça.
Ça, c'est très clair, c'est que... Ouais. Plus je me forme en théologie, donc ça répond à certaines questions, mais ça ouvre plein d'autres nouvelles questions. Mmh. Et on reçoit toujours davantage et on a toujours plus envie de recevoir.
Mmh. Et sur cette formation de théologie fondamentale et dogmatique, qu'est-ce que vous avez reçu en particulier, vous, Eugénie?
Alors, en première année, on a un cours de christologie sur la Trinité et 3 cours différents de théologie fondamentale. Voilà, ils sont tous. J'ai beaucoup reçu de tous ces cours. Peut-être la christologie qui m'a plu en particulier. La christologie, donc, c'est l'étude du Christ. Et ça, c'est vraiment central. Ça transforme le regard qu'on porte sur Jésus. On le connaît forcément mieux. Voilà. Et puis, en théologie fondamentale, j'ai beaucoup apprécié de travailler un petit peu sur le sujet de la sacramentalité, de la révélation. Donc, c'est un sujet. Comme ça, qui peut paraître compliqué. Mais en fait, j'avais été beaucoup marquée, il y a quelque temps, par le parallèle que fait l'Écriture elle-même entre la parole et le pain. Par exemple, dans le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, il y a tout un parallèle qui est fait, mais ce n'est pas uniquement là. C'est Dieu qui se donne à nous dans l'Eucharistie. Et de la même manière, en fait, il se donne à nous aussi à travers sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée. Et du coup, la question de la sacramentalité de la révélation, ça m'a permis de mieux comprendre un petit peu ce parallèle. Et en fait, à travers les mots de l'Écriture sainte que nous lisons avec nos yeux, que nous entendons avec nos oreilles, et à travers aussi les faits historiques de la révélation... En fait, c'est vraiment Dieu qui se donne à nous dans son mystère, dans sa transcendance. Mmh. Voilà.
Gaspard, vous voulez ajouter quelque chose sur cet enseignement de théologie fondamentale et dogmatique?
Oui, alors moi j'ai été très marqué par une chose toute simple également, alors en Trinité et en Christologie, le fait de réinsister sur l'immuabilité de Dieu. C'est-à-dire Dieu, en sa Trinité, en sa divinité, ne souffre pas. Et c'est vrai que c'est un point qui a parfois été mis à mal dans la théologie du XXe siècle et qui est encore très flou aujourd'hui. Et d'insister et de reprendre un peu avec les premiers conciles cette notion de, d'union hypostatique, de double nature du Christ, vrai, vrai Dieu, vrai homme, mais qui n'est pas une personne humaine, qui est une personne divine, ça m'a permis de d'une certaine manière déceler en Jésus une paix que rien ne pourra jamais violenter. Et le visage du Christ que nous en avons en devient à nouveau bien plus divin que peut-être ce que le XXe siècle parfois en a fait du leader politique à la victime absolument dépassée par... Jésus-Christ est Dieu, c'est une personne divine. Et c'est vrai que là on voit que la théologie, en tout cas ce fut le cas pour moi, a des implications très fortes et très concrètes dans notre vie. C'est que par là même, la contemplation que nous avons de cet homme est une contemplation bien particulière, parce que c'est la contemplation que nous avons de Dieu, et la relation que nous avons avec lui, par là même on est transformé. Nous sommes en face de quelqu'un qui est éternel, et qui l'a toujours été, qui le sera toujours. Mmh. Et voilà, c'est tout simple, l'immutabilité divine, je pense, est un point pour la vie spirituelle d'une très grande importance.
Le troisième pilier de la formation en théologie, c'est l'histoire et la patristique. Vous en avez un petit peu parlé, Père Charles Rochat. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Le point que je retiendrai, c'est la manière dont justement les pères ont été pétris de l'Écriture sainte. Voilà. Donc on a beaucoup parlé hein, du primat de l'Écriture. Mmh. Bon, ce sont les pères de l'Église sont les premiers grands théologiens hein, des premiers siècles. Certains vont jusqu'à dire que Saint Bernard est l'un des pères de l'Église hein, au XIIe siècle, mais ce sont des géants de la foi par leur sainteté de vie d'abord, et puis parce qu'ils ont vraiment contemplé l'Écriture sainte. Certains la citent à quasiment toutes les lignes. Hein. Et donc, ils nous donnent accès à cette forêt opaque, hein, justement, et ils nous permettent d'entrer dans une contemplation du Christ. Hein, voilà. Donc, l'étude des pères de l'Église, elle est essentielle, parce que ce sont nos premiers grands maîtres en théologie, en fait. Hein, voilà. Et tous les grands théologiens par la suite hein, de l'époque médiévale, Bonaventure, Thomas d'Aquin et plein d'autres, s'appuient largement sur l'héritage des pères. Mmh. Et puis plus récemment, hein, je pense à un Ratzinger, par exemple, hein, pour ne citer que lui, hein, mais c'est lui-même aussi un homme qui est pétri de l'enseignement des pères de l'Église.
Mmh, d'accord. Enfin, la théologie spirituelle et morale, c'est le quatrième volet de la formation. On imagine qu'en tant que laïque, cette spécialisation vous a particulièrement intéressé. Qu'est-ce que vous avez appris en particulier, Eugénie Boulenois?
En théologie morale, moi j'ai été particulièrement intéressée cette année par les écrits d'un moraliste dominicain qui s'appelle Servet Theodor Pinkers, que j'ai un peu approfondi cette année. Et en fait, il relie toute l'histoire de la théologie morale depuis saint Paul, et il explique notamment comment, à partir du XIVe siècle, il y a eu une certaine peut-être déformation de la manière dont on enseignait la morale, et en fait ça m'a permis vraiment de mieux comprendre les sources profondes de la crise de la morale que nous pouvons observer dans la société contemporaine. Voilà, c'est vraiment, ça m'a donné vraiment des éclairages très importants. Mmh. Sur ce domaine.
Et vous, Gaspard?
Alors moi, je me suis intéressé à la créativité dans l'agir humain. Oh. Ça a intéressé mon âme d'artiste, et à l'école de Saint Thomas également, à partir d'un article d'une sœur dominicaine, Hosanna Rickman, et essayer de voir quelle était la part de créativité donc dans cet agir humain. Et elle essaie de montrer que cette créativité n'a lieu et n'est véritable qu'à partir du moment où elle se connecte, pour ainsi dire, où elle entre en relation avec la propre créativité divine. Nous devenons donc co-créateurs, coopérateur de Dieu, et cela m'a intéressé particulièrement pour essayer de comprendre un peu ce qui peut se passer dans un concert. Oui. De musique classique, comme c'est mon métier, et de voir que ce que parfois certains musiciens complètement athées appellent des moments de grâce, le sont en effet. Ce sont bien des moments de grâce, puisque l'homme, par sa recherche artistique, par sa recherche d'absolu, d'une certaine manière, peut devenir le relais d'un geste divin. Et donc, en étudiant Saint Thomas d'Aquin, étonnamment, moi qui avais grand peur de lui, en étudiant saint Thomas d'Aquin, j'ai pu trouver des réponses, et des réponses non seulement vraies, mais belles, des réponses en elles-mêmes réjouissantes par rapport à ma propre quête artistique.
Oui, et puis concrète en tout cas.
Et très concrète,
ouais. Oui. Oui, c'est ça. Frère Henri Deneau, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire, pour un laïc qui va faire ses études de théologie, qu'est-ce que ça peut lui offrir comme débouché, peut-être professionnel aussi?
Alors, je dirais, si on fait de la théologie, je crois que c'est d'abord par amour. Parce qu'on aime la parole de Dieu, on aime Jésus, on veut le connaître. Mais il est évident qu'il y a aussi une finalité de service de l'Église, on l'a dit. Alors c'est vrai pour les séminaristes et les jeunes religieux et religieuses, mais c'est vrai aussi de toutes sortes de laïcs qui veulent se former et qui doivent se former avant d'exercer des responsabilités dans la catéchèse, dans l'accompagnement des aumôneries d'hôpitaux. Il faut se former, donc ils ont besoin d'entrer en théologie. Et puis alors, il peut y en avoir certains. On souhaite de plus en plus qu'il y en ait qui puissent en faire même leur carrière principale. Alors les débouchés ne sont pas très larges, mais d'être enseignant en théologie. Et nous avons la chance à la faculté d'avoir plusieurs laïcs qui sont des enseignants en théologie, qui en font leur métier. Alors, je ne dis pas qu'on est très bien payé, je ne dis pas qu'on fait des carrières éblouissantes, mais enfin, on peut consacrer sa vie comme un universitaire en théologie. Il y en a de plus en plus. On a formé plusieurs docteurs en théologie et laïque, hein, c'est-à-dire le sommet des études de théologie, qui ensuite exercent, à l'heure actuelle, une antenne de la faculté de théologie est dirigée par une ancienne élève qui est docteur en théologie. Une autre va soutenir bientôt sa thèse dans un autre diocèse voisin d'ici, va pouvoir aussi exercer des responsabilités académiques dans la formation ecclésiale. Donc oui, il y a un beau débouché.
D'accord, un beau débouché. Et puis, en tout cas, comme le disait Eugénie Boulenois, c'est aussi une façon d'éclairer la vie en société, en tout cas, dans les questions de morale. Merci beaucoup, Eugénie Boulenois, Gaspard Dume, frère Henri Deneau et père Charles Rochat. Vous avez témoigné aujourd'hui que la théologie n'est pas réservée à ceux qui se consacrent à la vie religieuse ou à la prêtrise. Les laïcs, quel que soit leur état de vie et leur âge, trouveront une nourriture solide grâce à ces études de théologie. Merci beaucoup.
Merci.
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 Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.